podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Bienvenue à tous pour ce nouveau dossier podcast de Frontières des séries. En 2004, la BBC diffuse sa nouvelle mini-série en 6 épisodes, Blackpool, avec en vedette deux ténors de la télévision britannique, David Tennant et David Morrissey. La série relate l'ambition de Ripley Holden, gérant d'une salle de jeu dans la petite ville côtière de Blackpool. Il rêve d'en faire le nouveau Las Vegas et compte bien d'ici peu y ouvrir le premier hôtel casino du coin. Entre alcool, prostituées et jeux d'argent, il a bien peu de temps pour s'occuper de sa famille. Les choses vont encore se gâter lorsque le corps sans vie d'un jeune homme sera retrouvé dans son établissement. Le détective Carlyle n'aura quant à lui plus qu'une idée en tête, faire tomber Ripley pour meurtre. Pour nous en parler aujourd'hui, Sophie Sourdiocourt, bonjour.
Bonjour.
Il nous accompagne également dans cette analyse, Tilman Villette, bonjour.
Bonjour.
Alors, créée par Peter Walker, la série a surtout la particularité d'être aussi une comédie musicale. On ne s'attendait probablement pas à ça. Alors Sophie, enquête policière, chant et danse, est-ce compatible ?
Je dois dire qu'en effet, c'est quand même assez particulier, hein. Parce qu'on est tout de suite mis dans le bain dès la première scène. La série commence par un morceau de musique d'Elvis Presley, Viva Las Vegas, alors que la famille Holden se prépare pour une soirée à l'arcade, donc qui est un genre de casino avec des machines à sous, des roulettes. Donc l'arcade dont est propriétaire Ripley Holden, le père de famille. Tout en s'habillant, se coiffant, il chante au-dessus de la bande-son. J'y reviendrai plus tard pour tout ce qui est dubbing. C'est bizarre, mais on a un peu l'impression que la musique est à fond dans la maison et que tout le monde y va un peu en chantonnant. Donc ça passe assez bien la première, je dois dire, parce que ça va, c'est joyeux, c'est le début de la série.
Et puis c'est une situation qu'on peut vivre chacun chez soi.
Oui, chanter à tue-tête, sous sa douche, en se séchant les cheveux. Par contre, la deuxième fois, là, c'est un peu plus interloquant parce qu'ils sont au casino et Ripley entonne « You can get it if you really want » de Jimmy Cliff et il est juste en pleine conversation et il se met à chanter. Les personnages autour de lui se mettent à danser. Hop, une petite danse typiquement comédie musicale avec des petits pas de côté. Le décalage vient du fait que c'est vraiment passager. Ils chantent pas tout le temps, il n'y a pas les codes de la comédie musicale avec des petits bouts de phrases où on chantonne. Non, c'est assez classique et puis tout d'un coup, ils se mettent à chanter ce qui leur passe par la tête et les personnages autour entonnent gaiement et dansent avec eux.
Est-ce que justement les paroles des chansons se rapportent à l'action qui se passe juste avant ou juste après ?
Ça se rapporte quand même, hein. C'est soit juste ce qu'ils viennent de dire, soit ce qu'ils pourraient se dire en parlant, mais c'est souvent fantasmé quand même, hein. C'est rarement un dialogue logique et il y a rarement de suite aussi au moment chanté. Donc la chanson vient comme ça, je plouffe.
Parce qu'on a l'impression que ça se passe dans la tête du personnage de Ripley ou bien ça se passe réellement ?
On a plutôt l'impression que c'est fantasmé dans sa tête ou en tout cas extrapolé, mais c'est pas que Ripley, hein, parce que tous les personnages peuvent se mettre à chanter. Donc c'est pas nécessairement lui qui pousse la chansonnette.
On avait déjà eu un exemple de série dans le même type qui était Cop Rock, qui était une série américaine des années 80 qui mettait en scène justement un commissariat de police dans lequel à tout moment les flics et les malfaiteurs se mettaient à chanter, à danser comme dans une comédie musicale. C'est vrai que ça avait fait un petit four cette série. Elle avait été diffusée pendant une douzaine d'épisodes et elle avait été produite par Steven Bochco et c'est vrai que c'était assez déstabilisant de voir ces flics en pleine enquête se mettre à pousser la chansonnette et à se mettre à danser au milieu de la rue. Ici, on est clairement dans le même cas de situation, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Et puis, une chanson n'est pas l'autre non plus, hein. Parfois, on a des musiques très drôles, on a des musiques beaucoup plus graves. Et l'intention dans la musique diffère selon le climat dramatique voulu en général, mais n'est pas toujours en adéquation avec le scénario. Et pour vous faire comprendre le décalage, je vais d'abord vous parler de l'histoire centrale, hein, parce que les chansons, c'est juste un élément en plus. Et donc Blackpool, c'est hors musique une série policière britannique très classique. Un meurtre, un policier, un suspect, des fausses pistes et une ville glauque et grise. Mais commençons par Ripley Holden, interprété par David Morrissey. C'est un horrible personnage, macho, buveur, bagarreur, qui poursuit le rêve fort peu réalisable de faire un hôtel casino avec son vieil immeuble d'appartement qu'il loue à des prostituées et à des drogués, et à le combiner avec sa salle de jeu actuelle. Il est fasciné par Elvis et Las Vegas et il se borne, contre l'avis de son comptable, à continuer son projet. Il est marié à Nathalie, qui est interprétée par Sarah Parrish, une femme séduisante et mère dévouée, mais qui a un peu oublié de vivre pour elle et qui est désespérée de voir sa vie peu folichonne. Et pendant que son mari vide leur compte dans son projet fou, elle, elle est volontaire au Bon Samaritain, une sorte de SOS amitié comme dans Le Père Noël est une ordure. Ripley et Nathalie ont deux enfants, Cheyenne, étudiante de 20 ans, adorée par Ripley, et qui tombe amoureuse d'un homme de l'âge de son père, et ce qu'il apprécie évidemment moyennement vu son tempérament de feu. Et puis Denny, qui a presque 18 ans, qui est un adolescent mou et mal dans sa peau, les cheveux gras, mal habillé. Lui, il idolâtre son père, qui pourtant le ménage pas du tout, et il le bouscule d'ailleurs très souvent. Et à ses heures perdues, Denny, il est DJ dans une boîte de striptease, et il deal de la drogue. Donc un joli portrait de famille dysfonctionnelle dont le père ne se préoccupe pas vraiment. Lui, son truc, c'est son projet, hein. Il est souvent entouré de trois acolytes peu avenants, et c'est aussi ses partenaires financiers. Il y a un responsable de la police locale, qui essaie toujours de magouiller des petits trucs, un comptable paniqué à l'idée que Ripley fasse faillite, et puis un troisième larron qui gère des affaires un peu pas toujours très nettes. Et lors d'une grande soirée à l'arcade, il remarque une bande de jeunes qui trichent aux machines à sous. Ils les font virer du lieu, et l'un d'entre eux, avec qui Ripley a eu une altercation plus tard dans la soirée, est retrouvé mort le lendemain matin dans la salle de jeu qui était pourtant fermée à clé et sous alarme, et dont seul, visiblement, Ripley avait la clé. C'est alors qu'arrive le détective Carlyle, interprété par David Tennant, pour enquêter sur l'affaire. Et il soupçonne évidemment immédiatement Ripley, et Carlyle va avoir un rôle détonnant dans la vie de Ripley, car le patron de casino se place toujours en meneur dans sa ville. Personne ne l'affronte ou ne remet en question son autorité sur son petit bout de côte où il s'est installé, sauf un tout petit comité qui campe devant l'arcade et qui veut absolument pas faire de Blackpool le nouveau Las Vegas. Et dès la rencontre entre les deux hommes, entre Carlyle et Ripley, un duel perpétuel va s'installer entre eux. On s'attend même parfois à voir un ballot de paille qui roule dans le désert, tant la tension est forte, on se croirait dans un western, il y a des gros plans sur les yeux, comme ça.
C'est ça, on dirait deux coqs dans leur basse-cour en train de se disputer les poules.
C'est tout à fait ça, les plans rapprochés, il y a une scène de chant, un genre de battle sur « These boots are made for walking » qui est assez savoureuse.
So, did you see this man in any fights the other night, Danny? You sure? Because we've got you and him on CCTV going into Romeo's within 10 minutes of each other.
Well, I didn't see him there. I never saw him after he left this place.
He was here. At the arcade opening night, are you sure?
Of course I'm sure. You could hardly miss out like that, could you?
Okay, okay, Braveheart. What do you think you're doing?
I'm just trying to ascertain where science ends and luck begins.
You're talking to my son. He's a minor. You don't talk to my son without me being there. Understand?
Okay. Just collect my winnings. Oh, and Mr. Holden, just one question and I'll be gone.
What do you want to know?
What's an AWP?
Amusement with prizes, like that machine you've just been playing.
I see, amusement with prizes. Huh. Sounds a bit like life itself, doesn't it? And you are absolutely sure you didn't see him here at your opening night party?
Absolutely. You know why? Because he wasn't here that night. Now are you sure your way out?
Donc on le verra par la suite également, la rivalité entre Carlyle et Ripley va être encore renforcé par un autre événement.
Ben oui, parce que Carlyle va avoir une aventure avec Nathalie, la femme de Ripley. Faut d'ailleurs un sacré bout de temps avant de savoir si Carlyle est sincère, parce que c'est un personnage très très difficile à cerner. Il commence par aller interroger Nathalie au sujet du meurtre, mais il lui dit pas qu'il est détective, et il tente de la séduire, et leur aventure va avancer petit à petit. Mais il faudra vraiment un certain temps, donc c'est-à-dire je pense qu'on est dans l'épisode 4, au moment où Carlyle renonce à l'enquête parce qu'il veut avancer dans sa relation avec Nathalie, là on se dit bon, vraiment on commence à le croire. Mais avant ça, on se demande vraiment s'il essaie pas juste de faire tomber Ripley, parce que c'est vraiment deux hommes qui ont pas mal de similitudes finalement, parce qu'ils sont vraiment entêtés dans un projet, entêtés dans une direction, et Carlyle il veut pas envisager d'autres pistes que celle de Ripley en tant que tueur. Mais il n'y a pas qu'avec Carlyle que Ripley va être en conflit, parce que sa fille Cheyenne, donc elle sort avec un homme qui a le même âge que lui, et il va évidemment aller le menacer et lui révéler qu'ils se connaissent en fait depuis l'école, parce que Ripley a changé de nom, mais qu'il est encore plus dangereux qu'à l'époque. Et là, on se dit, oh mon Dieu, il a tué des gens, ce Ripley, c'est pas possible. Non, en fait, il avait écrit des lettres anonymes aux parents de plusieurs camarades de classe, dont Steve, pour les dénoncer d'être gays, drogués, ou encore de le tyranniser, ce qui était faux. Et il avait juste décidé de faire du mal aux gens, au hasard, sur la liste de classe, et puis d'aller se jeter sous un train. Et on comprend à mi-mot qu'il avait de sévères problèmes aussi de familiaux avec son père, mais cette info, par contre, n'est pas du tout développée, ce qui aurait pu être intéressant pour un peu voir comment Ripley en arrivait à ce caractère de chien. Donc en fait, ça a toujours été un crétin, clairement un sale gars. Et lorsque Steve refuse d'arrêter de sortir avec sa fille, il se fait tabasser, il finit à l'hôpital, et tout le monde pense évidemment que c'est Ripley, sa fille en premier, et il faudra attendre quand même le dernier épisode pour savoir que c'est pas lui qui a fait le coup. Donc, on le dépeint aussi comme vraiment un sale type, non-stop.
Et surtout capable de tout.
Comme il faut aussi un certain temps avant de savoir que ce qu'il a fait quand il était jeune, c'est écrire des lettres, en fait. On s'attend au pire.
En fait, la série nous fait imaginer des choses beaucoup plus sombres en propos du personnage de Ripley, probablement aussi pour entretenir un peu le suspense.
Ça nous met aussi en empathie avec Carlyle, qui lui cherche vraiment à tout prix à faire tomber Ripley. Au niveau de l'enquête, ça nous fait aussi avoir des rebondissements de l'un à l'autre. On a toujours Ripley comme coupable idéal, mais il y a pas mal quand même d'aveux. Il y a des gens qui commencent à aller avouer le meurtre du jeune homme à la police, le fils, Danny, qui va s'accuser, il y a la femme qui va donner un alibi à Ripley, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai, parce qu'il y avait même le chef de la police qui avait donné un alibi à Ripley pour le même moment, mais les deux ne concordent pas. Donc ça continue à donner des témoignages en défaveur de Ripley, parce que même quand c'est son fils qui se dénonce, on sent qu'il y a un truc derrière.
On est donc ici devant face à une série de 2004. On sait que depuis quelques années, un an ou deux, les séries avec des anti-héros sont très à la mode. On a vu Ray Donovan, on a vu un peu auparavant, même un peu beaucoup plus loin, les Sopranos. Est-ce qu'ici, on se rend bien compte qu'on a un héros peut-être pas tout à fait blanc ni pas tout à fait noir qui est Carlyle? On a Ripley qui est aussi un peu sur un fil. Est-ce qu'on arrive à s'attacher à ces personnages ou bien pas du tout? Est-ce qu'il y a une identification possible? Est-ce qu'on sait rentrer dans cette histoire où on en est simplement spectateur?
Très très peu, on en est spectateur. La seule à qui on peut un peu s'identifier, c'est peut-être Nathalie, qui elle est là un peu entre deux feux, qui est entre son mari, qui est le gros crétin, et puis Carlyle, qui lui est nettement plus tendre, qui l'écoute, qui fait attention à elle, ce que son mari ne fait plus depuis des années.
Donc on peut quand même prendre Carlyle un peu en affection, malgré qu'il ait des idées préconçues,
voilà,
qu'il soit très buté, qu'il ait plein de défauts.
Et qu'on ne sache pas toujours non plus ce qu'il pense vraiment. Mais il est beaucoup plus attachant et beaucoup plus touchant que Ripley, quoique Ripley, vers la fin de la saison, mais on est vraiment en toute fin de saison, genre il se fâche sur sa fille et il veut lui envoyer un pot à la figure, et puis il se ravise et il lui dit « t'as de la chance que je sois un père moderne », derrière, il dit des choses sympas sur elle, en fait. Et à la toute fin, parce que finalement, attention, gros spoil pour ceux qui ont quand même envie de regarder, lors du mariage de sa fille avec Steve, il va trouver Carlyle en lui disant que sa femme sera plus heureuse avec lui et qu'il leur donne sa bénédiction. Donc, il est plus touchant à la fin et en même temps, ça sonne faux parce qu'il a été infâme pendant toute la saison, comme ça, out of nowhere.
On ne comprend pas d'où vient ce retournement, quoi.
Absolument pas. Parce qu'il n'y a pas eu d'éléments avant dans la série où il n'est pas tendre, quoi. Il n'est jamais tendre avec personne. Et puis tout d'un coup, pouf, parce que c'est la fin, il devient sympathique. On a un petit regard plus bienveillant sur lui.
On peut se dire aussi, finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on dit déjà depuis quelques temps concernant les mini-séries. 6 épisodes avec une telle histoire, c'est beaucoup, non?
Bah oui, c'est beaucoup. 6 fois 1 heure, 6 heures avec si peu, parce que vraiment, au niveau enquête, ça piétine, quoi. Il se passe rien du tout. Dès le départ, on sait, parce qu'en fait, celui qui a vraiment tué le gars, il l'avoue. Et donc, ça n'a vraiment aucun intérêt, en tout cas, au niveau policier, ça n'a vraiment aucun intérêt. Le seul intérêt peut être les personnages, le développement des personnages. Dans le cas de Ripley, c'est pas énorme. Dans le cas de Carlyle, pas non plus. Les personnages autour, les associés de Ripley, qui finissent par se donner des coups.
Et donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, comme la plupart des personnages sont idiots ou pas sympathiques du tout, contrairement à d'autres séries actuelles où il y a quand même toujours une faille qui permet de s'identifier à l'un des personnages, ici, il n'y a pas d'implication ou très peu d'implication du spectateur.
Bah, très très peu. Et donc je pense que le scénario étant aussi peu... Enfin, je ne pense pas qu'à la base, le projet vienne du scénario. Hein. À mon avis, le projet vient du fait de faire une comédie musicale policière. Mais donc, au milieu de cette enquête fort peu passionnante, eh ben, il y a l'élément étrange, les chansons et les danses. Et c'est vraiment bizarre, parce qu'ils chantent au-dessus de la chanson, mais alors la voix du chanteur initial est toujours plus forte. Donc, on ne sait pas trop si la production a eu peur que les acteurs ne s'en sortent pas, ou si c'est vraiment délibéré d'avoir cette double voix. Et c'est donc un genre de karaoké. Et souvent, les scènes sont fantasmées dans une piscine ou quand Carlyle et Nathalie couchent enfin ensemble sur la chanson la moins romantique du monde, You Know How to Squeeze Me, et que Ripley apparaît et chante. C'est même pas vraiment en adéquation avec la situation.
Ça a le mérite d'être drôle.
Ça a le mérite d'être drôle, mais pas toujours. Alors parfois, il y a vraiment du second degré, et puis parfois pas. Et on se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte ? A déjà une enquête policière qui n'est pas très intéressante. Il y a un autre effet qui est récurrent, c'est un gros plan sur une machine à sous avec les rouleaux hein, pour avoir trois cerises ou trois cloches. Et en fait, c'est la tête des personnages, une petite vidéo des personnages triplés. Et en général, c'est pour faire une ellipse de temps, changer de sujet ou insister sur un moment comme si on faisait un long fondu au noir, en fait. C'est ce qui est utilisé et c'est extrêmement kitsch. Hein. C'est vraiment... Est-ce qu'en 2004, c'était pas kitsch ? Je doute. Je pense que c'était déjà kitsch. Un genre de délire, quoi. Est-ce que les producteurs se sont dit « Tiens, ça n'a pas encore été fait chez nous. Ça ne va pas du tout ensemble. Faisons-le. »
Mais qu'ont pu bien consommer ces scénaristes.
Je ne sais pas, je ne sais pas.
D'autant que c'est quand même avec un casting de qualité. J'imagine que les acteurs, David Tennant et David Morrissey, c'est pas les dernières des billes.
J'imagine très,
donc on a quand même quelques satisfactions. Mais je propose peut-être qu'on en parle après un extrait.
Cheyenne's a wonderful woman. She's turned my life around.
Don't use my daughter to make you feel better about yourself.
I don't think that's how Cheyenne sees it.
Steve, I'm a man of the world. I know it's nice to feel fresh with a bit of spring in it. But society has taboos for a reason. And that reason is so saggy-assed old burnouts like you don't get their hand on a wet dream like my daughter.
I know this must be hard to accept.
What I find hard to accept is you sit there pretending you don't know who I am.
I don't know you.
South Shore Secondary Modern. 1970-77, right?
Yeah. You were there too. We were at the same school.
Now you're poking my daughter. And I'm trying not to break a rib laughing at the coincidence.
I don't remember you.
I've changed.
Well, I think I'd remember a name like Ripley Holden.
Well, I wasn't Ripley Holden then.
Who were you?
Someone else. Have you got a pen? Now, there's a name you might remember. What you should know is that Ripley Holden is a ton more messed up than this boy.
C'est une série en 6 épisodes, mais il y a également eu un téléfilm après.
À la fin de la série, en fait, Ripley part vers Las Vegas, retournant voir son créateur, comme il le dit si bien. Et donc, le téléfilm, Ripley est revenu de Las Vegas et il est devenu pasteur et a ouvert une wedding chapel, hein, comme à Las Vegas. Et donc ça, c'est son nouveau projet, c'est de faire de la côte anglaise un haut lieu des mariages rapides, comme à Las Vegas.
C'est un peu un changement de cap à 180 degrés, mais c'est toujours aussi vulgaire, semble-t-il.
Oui, et ça chante aussi. Hein. Mais ça commence mieux. Je trouve qu'il y a plus de second degré dans le téléfilm, c'est plus drôle. C'est comme s'ils avaient beaucoup plus assumé le côté second degré des chansons. Mais ça chante aussi beaucoup. Ça a été adapté aussi aux États-Unis, Blackpool, mais ça a été annulé après 2 épisodes. Donc c'est pour dire, ça n'a pas pris non plus aux États-Unis. Par contre, en Angleterre, c'est assez mitigé. C'est un peu comme ici. C'est pas horrible, c'est pas très intéressant, mais il y a vraiment une communauté de fans. Il y a des gens qui ont aimé le délire au départ.
On a l'impression que pour ceux qui aiment cette série, la forme compte plus que le fond, finalement.
Oui, absolument. Oui, oui, parce que dans le fond, il y a pas. C'est le petit délire. C'est comme un épisode de Buffy qui est devenu musical. Sauf que là, il y a un vrai fond. Mais voilà, c'est comme si le scénariste s'est fait plaisir, quoi. Il dit, allez, le producteur s'est dit, allez, amusons-nous. Mais...
comme pour tout objet télévisuel un peu bizarre, il y a toujours une communauté de fans qui va porter le produit au nu et en faire une sorte de produit culte. On l'avait déjà vu, par exemple, dans le dossier que j'avais fait sur John from Cincinnati. Il y a un petit culte, alors que c'est quand même un objet très, très étrange qui va laisser pas mal de personnes sur le carreau. Donc moi, ça m'étonne pas vraiment, en fait, hein, ce culte.
Et puis, il y a de nouveau ces deux acteurs que sont David Tennant et David Morrissey qui font que ça rajoute un peu d'aura à cette série de la BBC.
C'est clair qu'ils sont vraiment très bien. David Morrissey est absolument détestable à souhait, voire répugnant par moments. Hein. Carlyle, enfin, moi, je le trouve charmant, hein, David Tennant. Et les deux acteurs s'étaient déjà rencontrés justement dans Doctor Who, dans un épisode où Morrissey se fait passer pour le docteur. Donc, c'est un épisode assez clé pour les fans parce qu'on pense que Morrissey va devenir le docteur suivant. Ce qui n'est pas le cas, parce que c'était juste un gars qui se prenait pour un autre. Mais il y a déjà eu une confrontation entre les deux acteurs qui a été assez mythique.
Bon, on l'aura compris, c'était probablement pas ta tasse de thé, Blackpool.
Ben non, là, j'ai pas eu de coup de cœur, en tout cas. Je suis peut-être pas rentrée dedans, mais j'ai pas dit « Waouh, il chante !»
Mais t'as quand même trouvé quelques qualités à cette série.
J'ai trouvé quelques qualités, oui. Surtout dans les acteurs. Franchement, les performances des acteurs sont vraiment chouettes. Au-delà de ça... c'est un ovni.
C'est là-dessus donc qu'on va refermer ce dossier en vous donnant peut-être, on l'espère, l'envie de voir Blackpool et de vous forger votre propre opinion par rapport à cette série un peu bizarre. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci Sophie, merci Tillman.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.